Bon, on va avoir maintenant une présentation, une courte présentation de Christian à partir des slides qu'il avait préparés, et puis on passera aux questions-réponses.
Ok, d'accord. Alors, c'est un essai, en fait, si vous voulez, j'ai essayé de retranscrire les enseignements, en tout cas ce que nous propose Paul Diehl, dans une dimension de relation professionnelle. Hein? Alors, vous allez voir, hein, il y a des redites par rapport à ce que Pierre nous a exposé. Hein. Mais en même temps, l'idée, c'est de construire quelque chose dans cette dimension managériale. Alors avec des peut-être... parce que moi, je ne suis pas un manager. J'ai dirigé un service de 8 personnes pendant une trentaine d'années. Alors, je n'étais pas un manager comme dans une grande entreprise et tout ça. Mais je me souviens, j'avais un mot sur mon bureau que j'ai gardé pratiquement toute mon activité professionnelle, démarqué le vrai talent, c'est de découvrir le talent des autres. Je ne sais pas si j'ai réussi, hein, je n'ai pas la réponse. Donc voilà, alors on va commencer. Donc c'est un essai d'application de la proposition de Paul Diehl dans une dimension de relation. Donc, un des premiers enseignements de Diehl, c'est que la personne est considérée dans sa globalité, ce qui veut dire que sa vie professionnelle a un impact sur le rapport à lui-même, c'est ce qu'on a vu, c'est-à-dire avec cet indice de satisfaction dont on a parlé, hein, je ne vais pas revenir dessus. Donc, sa vie professionnelle a un impact sur le rapport à lui-même, mais évidemment sur le rapport aux autres, c'est-à-dire extérieur à l'entreprise, famille, conjoint, et puis autre type de relations. Alors, ce que nous venons de voir, c'est que l'harmonie au travail va avoir des répercussions, notamment sur l'identité de la personne, hein, et son engagement général, pas seulement dans l'entreprise, mais son engagement, on peut dire. Hein. Donc, l'intérêt, c'est que, par rapport à cette approche que nous avons développée, c'est que la personne peut se sentir à sa place et être actrice de sa vie, qui va être un gage de sérénité et aussi de robustesse face aux aléas professionnels. Alors, on va voir ça plus en détail. Alors, ce que nous venons de voir, finalement, c'est que cette harmonie, hein, dont nous parle tant Paul Diehl au travail, eh bien, va nécessiter un certain nombre de... peut se manifester de différentes manières. Elle peut se manifester en proposant à la personne une autonomie, hein, que la personne devienne autonome. C'est une vraie satisfaction pour la personne de devenir autonome dans son activité. Quand j'étais dans mon service à la fac, c'était un des objectifs que j'avais, c'était de donner la possibilité aux autres, moi j'étais professeur, j'avais donc plusieurs maîtres de conférences, eh bien je leur donnais la possibilité de devenir autonome, c'est-à-dire de devenir expert dans un domaine particulier. Vous voyez ? Donc ils devenaient autonomes. Donc ça c'est l'autonomie, les compétences bien entendu. Hein. Donc l'estime de soi, harmonie au travail, c'est développer une autonomie, développer ses compétences, toutes ses compétences, ses capacités, ses aptitudes, être en estime d'elle-même, et puis, comme on l'a dit, mais ça, je ne vais pas y revenir, c'est l'harmonisation, c'est-à-dire de proposer l'harmonisation des désirs, qui va, par conséquent, avoir comme répercussion que la personne va devenir cohérente avec elle-même et cohérente avec ses valeurs. Alors tout ça, c'est dans le processus d'élucidation des désirs et d'harmonisation que nous avons vu avant la pause. Hein. Donc, la personne, avec ces éléments-là, eh bien, devient actrice de sa vie. Alors voilà, j'ai noté ici, tout a été modifié par suite du changement de voilà. Non, mais voilà. Donc, je reprends un petit peu. Tout a été déplacé, mais c'est intéressant. Hein. Vous voyez, c'est qu'au départ, on a donc... l'élan vital, sur lequel je ne reviens pas, qui va être à l'origine des désirs. Et là, ce qui va se passer, c'est que vous allez avoir donc tout ce qu'on a dit, la tribulation des désirs, avec les exaltations, les fausses motivations. Et puis vous allez avoir donc, la dimension sur laquelle je voulais insister, c'est que vous avez en dessous l'intellect qui va venir se positionner là, et l'esprit qui va se positionner. Hein? C'est-à-dire que à ce niveau-là, eh bien, la personne peut développer effectivement son intelligence, ses outils qui sont à sa disposition pour mettre en place, pour réaliser ses désirs, guidés par l'esprit valorisant, vous voyez, qui vont donner sens. Ce que j'ai noté là, mise en acte, hein, avec donc voilà, mise en acte qui font sens et exprimant l'identité. Vous voyez, voilà. Alors, l'élan vital, mais là j'ai repris quelques définitions, c'est juste parce que ça permet de, encore une fois, de refixer un peu les idées. L'élan vital, c'est la force vitale qui anime tout être vivant dans sa recherche de satisfaction. Il est intéressant de prendre conscience de ça, vous voyez, que de l'existence de cette force vitale. Parce que on a bien souvent aussi un rapport aux autres qui peut être dans l'accusation. Et le fait de savoir ça, que cet élan vital existe dans chacun de nous, eh bien, je veux dire, c'est très pacifiant. Vous voyez, c'est très pacifiant parce qu'on sait que la personne en face peut, avec ses moyens, avec ses capacités qui sont à développer, à découvrir ses propres ressources, eh bien, peut trouver sa propre satisfaction, mais également trouver, faire en sorte qu'elle s'harmonise avec les autres, avec son entourage. Donc, les désirs viennent de la rencontre de cet élan avec l'environnement. Et déjà, j'ai noté une phrase de Paul Dia qui m'a semblé intéressante, c'est que l'esprit humain est la manifestation la plus éclatante de l'essence mystère. Donc, je l'ai simplement positionné là pour reprendre cette idée que le mystère, hein, qui est cette constatation finalement des limites de notre compréhension du monde, eh bien, peut être à l'origine de la spiritualisation. Oui. Donc, c'est ce que dit Didier, en tout cas. Alors, voilà. Comment la phrase qui est en haut,
c'est... descendre encore.
Non, mais je vais peut-être le relire. Les clés proposées par la psychologie de la motivation. Alors, les clés. Que nous propose la psychologie de la motivation? Eh bien, elle nous propose... Donc, là, vous allez voir, hein, c'est une reprise de ce qui a été dit précédemment, mais on le repositionne dans un contexte, l'élucidation des désirs de l'autre, et connaître ses intentions. Un mot extrêmement important, c'est le mot « intention ». Hein? Quelles sont vos intentions? Quand je reçois des personnes en thérapie, c'est une des questions que je leur pose. Mais quelle est votre intention? Vous savez, là, je reçois des personnes récemment, ça c'est un peu pour illustrer le propos de Pierre de tout à l'heure, en propos des valeurs qui ne sont pas celles de la personne. Hein? Eh bien, vous avez des personnes qui n'en peuvent plus, parce que elles sont, depuis 30, 40 ans, je reçois actuellement une personne de 50 ans, eh bien, elle n'en peut plus. Parce que toute sa vie, finalement, elle n'a fait qu'obéir, je résume la situation, elle n'a fait qu'obéir aux valeurs des autres, voyez, à ce qu'on lui demandait d'être, voyez, pour recevoir de la reconnaissance personnelle. Mais dès son enfance, on lui a demandé, ceci, cela, hein, des formes d'injonction, on va dire parentale, sociétale. Hein. Donc, et ça, c'est intéressant. Parce que donc dans cette dimension thérapeutique, il s'agit de retrouver progressivement les ressources propres de la personne et qu'elle redessine elle-même ses propres valeurs. Alors ça, c'est intéressant, parce que, si vous voulez, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que le travail qui peut être fait et qui peut être également pris en considération dans une relation managériale, c'est aussi tenir compte des propres valeurs de la personne et ne pas imposer les valeurs qui sont celles de l'entreprise ou celles du directeur ou celles de je sais trop qui. Voyez, donc il y a à tenir compte des valeurs et à les faire émerger. À les faire émerger, vous comprenez? Ça, c'est intéressant. Alors, je ne dis pas qu'il faut être psychothérapeute pour être manager, pas du tout, mais c'est également une manière de regarder la personne. Hein, c'est une vision de la personne qui est différente et qui est très respectueuse de ses propres valeurs. Alors, ça, c'est... Voilà. Donc, connaître ses compétences et ses capacités intellectuelles, aboutir à la vérité sur soi-même et donc à la joie dans l'existence, c'est un postulat d'Hélien. Hein. C'est-à-dire quand on se connaît, quand on est en cohérence avec soi-même, quand on a harmonisé ses désirs, autrement dit, hein, eh bien, on obtient une sorte de vérité sur soi-même et donc à la joie dans l'existence. Symboliquement, je dirais, il est monté au ciel. Alors, le monter au ciel, symboliquement, ça ne veut pas dire qu'il est parti dans des sphères, dans des nimbes qui sont inaccessibles, pas du tout. Ça veut dire simplement que il a la personne, en étant en vérité avec elle-même, eh bien, a simplement acquis des valeurs, a simplement mis en œuvre dans son existence, aussi bien dans l'entreprise qu'à l'extérieur, ses propres valeurs. Et elle les vit. Vous voyez ? Donc, voilà, ça, c'est une des traductions bibliques de cette montée au ciel. Oui. En sachant que le bonheur et l'accomplissement sont des résultantes. Alors, ça, c'est intéressant. Parce que c'est une idée... je ne sais pas si vous connaissez... J'ai pris cette approche également de Viktor Frankl. Viktor Frankl, qui est un psychiatre du 20e siècle, qui est également autrichien, et qui est très... comment dire ? Il est très complémentaire de Paul Diehl. Paul Diehl, c'est un homme qui a développé cette dimension introspective de la personne. Et Viktor Frankl, pas du tout. Mais alors, pas du tout. Lui, il dit, moi, ce qui se passe à l'intérieur de la personne, ça m'est égal. Mais vraiment. Par contre, ce qui m'intéresse, c'est justement ce qui attire la personne. Vous voyez ? Donc, il va se positionner, la personne est là, et il y a quelque chose qui attire la personne. C'est comme si on disait, c'est une révolution copernicienne, si vous voulez. C'est-à-dire, au lieu de chercher ce que je peux attendre dans la vie, eh bien, la révolution de Frankl, c'est de dire, qu'est-ce que la vie attend de moi ? Vous voyez ? Donc, c'est une autre approche, c'est une approche à 180 degrés, si vous voulez, et qui est très intéressante. C'est ce qu'il a pu... Frankl a été 4 ans, a vécu 4 ans dans 5 ans de concentration, hein, et... Il a mis en place son approche thérapeutique qu'on appelle la logothérapie, c'est la thérapie du sens. Hein. Et il a pu simplement la vérifier dans les camps de concentration. C'est-à-dire que, en s'adressant à la personne, non pas sur ce qu'elle attend de la vie, mais sur ce que la vie peut attendre d'elle, c'est-à-dire ses ressources, ses capacités, ses désirs, eh bien, la personne s'ouvre au monde. Vous voyez ? C'est ce qu'il a pu. Et dans ces conditions que vous pouvez imaginer, eh bien, les personnes qui avaient entendu le message, si je puis dire, de Viktor Frankl, ont changé d'attitude. Et c'est une d'ailleurs des valeurs de Frankl, c'est ce changement d'attitude face aux événements de la vie. Voilà. Donc, en sachant que bonheur et accomplissement sont des résultantes, oui, c'est-à-dire que chercher le bonheur per intentionnel, on risque de se prendre les pieds dans le tapis. Pour parler rapidement. C'est-à-dire, je veux être heureux. Ça ne marche pas. Par contre, donc c'est la réalisation de soi-même, qui est tout à fait louable, hein, mais le fait de vouloir à tout prix le bonheur n'est pas le meilleur moyen parce qu'on tombe dans l'hyper-réflexion. Ce qui est intéressant, c'est de mettre au point des projets, on va y revenir, des projets, des intentions réalisables qui, per effectum, donc par conséquent, vont avoir pour résultante d'apporter la joie et le bonheur dans l'existence. Mais ce n'est pas la même chose. C'est en tout cas l'approche de Viktor Frankl. C'est pour ça que je l'ai noté, parce que c'est intéressant, au niveau même d'une relation avec des personnes dans une entreprise, c'est quand même intéressant de savoir que on peut aboutir à cette joie en proposant à la personne des projets qui vont correspondre à ses valeurs et qu'il va pouvoir développer en cohérence avec lui-même. Alors, je voulais simplement rajouter par rapport à Viktor Frankl, c'est que, à l'instar de Paul Diehl, il avait aussi compris que l'homme avait ce qu'il appelle, lui, non pas la spiritualisation, mais la dimension noétique. Noos, c'est le souffle de l'existence. Donc pour lui, la dimension noétique, c'est toute cette dimension de la personne, eh bien, dans laquelle on va retrouver justement le sens, les intentions et les valeurs, pour parler rapidement, mais aussi la responsabilité et le sens des décisions. Donc, prendre conscience que l'homme est un être de décision, vous voyez, et de responsabilité face à tel ou tel événement. Oui, quand l'être humain unifie ses actes avec ses valeurs essentielles, et elle-même avec son élan vital, il éprouve un sentiment de plénitude. Trois grandes familles de valeurs, là aussi, si vous voulez. Là, on est dans le concret, hein. On est dans le concret, dans le pratico-pratique. Les valeurs de vécu, c'est qu'est-ce qui me fait du bien dans mon quotidien, qu'est-ce qui me fait plaisir, vous voyez. C'est ce qu'on appelle les valeurs de vécu. J'aime aller prendre le thé à 17h avec telle personne. Enfin, il y a tout ce qui peut, dans le quotidien, dans l'ici et maintenant, me faire plaisir. Deuxième type de valeur, ce sont les valeurs de création. Qu'est-ce que je peux donner aux autres? Qu'est-ce qui peut émerger de moi? Vous voyez? Et ça, je vais vous garantir. Moi, je vous parle de ça, mais en thérapie, c'est des questions qu'on peut évoquer avec les personnes. Et les personnes trouvent en elles des richesses, j'allais dire presque pas insoupçonnées, mais en tout cas, qu'elles n'avaient pas émergé, donc qu'elles n'avaient pas vu. Et pourtant, en travaillant sur ces valeurs-là, on arrive à faire découvrir des choses qui ont du sens et qui vont redonner aux personnes l'estime d'elles-mêmes. Donc, valeurs de création, qu'est-ce que je peux donner aux autres? Et les valeurs d'attitude, qui sont les plus importantes, me semble-t-il, c'est que face à telle situation, qu'est-ce que je peux changer dans mon comportement qui va me permettre d'aller mieux? Qu'est-ce que je peux changer? Ce sont les valeurs d'attitude. Et Frankl dit... Dans les situations les plus critiques, hein, il parle même, si vous voulez, devant la mort dans les camps de concentration, il dit « Dans les situations les plus critiques, je suis un homme de décision, c'est-à-dire que je peux changer mon attitude face à tel ou tel événement. » Oui, alors voilà, c'est simplement un résumé pour vous montrer que à partir des désirs, si... ceux-ci sont connectés de manière harmonieuse. On peut établir au sein d'un travail en entreprise, par exemple, on peut établir des projets maîtres. Hein, et puis, ces projets maîtres, ils vont aboutir à un but idéal, le but idéal étant représenté par là où les valeurs qui m'attirent. Hein. Donc ça, c'est un plan général, si vous voulez, hein, qui permet d'écrire quels sont les désirs, de trouver des connexions harmonieuses entre ceux-ci, de manière à établir des projets maîtres qui vont eux-mêmes être attirés par un sens, par un idéal. Voilà. Ensuite, oui, ben ça, c'est la diapo était... Là, c'est très rapidement. Hein. Bon, l'élan vital, jusqu'à la mise en place du projet dont on vient de parler, va comprendre un faisceau d'éléments qui sont les compétences de la personne, les talents de celle-ci, ses motivations... et sa capacité de spiritualisation, c'est-à-dire de donner de la valeur, finalement, à ce qu'elle a envie de vivre, hein, tout simplement. Hein. Plus nos actes expriment nos valeurs essentielles, notre élan vital, plus notre satisfaction est grande et durable. Alors là, écoutez, très rapidement, parce qu'on l'a déjà évoqué, est-ce qu'on a parlé de désir essentiel? Le désir essentiel, c'est justement... Alors, bon, c'est une bonne occasion pour en parler, mais le désir essentiel, c'est justement cette instance... aussi, qui va vouloir, je ne sais pas si on peut parler d'instance, mais en tout cas, c'est cette capacité que chacun de nous possède de non seulement de donner, comme l'adjectif le stipule, de donner de l'importance à ce qu'on vit, mais également, le désir essentiel, c'est cette instance qui est habitée par l'esprit, en tout cas par cette capacité de spiritualisation, qui va nous donner la valeur à ce qu'on vit, pour parler rapidement, hein, qui va donc donner sens à ce qu'on vit. Donc le désir essentiel, j'en ai mis plusieurs définitions. C'est l'élan qui attire l'homme vers une direction sensée de la vie. C'est l'harmonisation de tous nos désirs multiples. C'est le renoncement à l'exaltation des désirs multiples. C'est monter au ciel, c'est devenir le représentant des qualités divines. Je dis bien le représentant, c'est pas... j'en ai parlé. Hein. C'est pas du tout ésotérique. Hein. C'est la poussée évolutive qui anime toute vie, le désir d'élévation... Tout ça, c'est des phrases de Diel. Hein. C'est toujours plus de lucidité sur nous-mêmes. Je crois. Oui. Oui, alors là, on entre dans une autre... Ça sera pour demain, parce qu'on va rentrer dans les... Là, on rentre dans les outils.
Oui.
On rentre dans les outils, là.
Hein. Ça, c'est un bon outil de marketing, là, parce que...
C'est marketing.
C'est bon.
Je peux quand même terminer par ça. Parce que j'ai représenté sur cette diapo, tout simplement, ce qui peut être les signes d'un bien-être chez la personne par rapport au mal-être, hein, qui sont les signes de bien-être, c'est toujours, hein, dans le même esprit de spiritualisation. Alors j'ai fait le bien-être. Là encore, hein, la diapo, c'est un petit peu... c'est pas grave. Donc, dans le bien-être, on a la paix, l'estime de soi, le sentiment, d'appartenance. Et le mal-être va s'exprimer par plusieurs éléments qu'on reverra dans le cadre des outils, qui sont l'accusation permanente de l'autre, la culpabilité, la sentimentalité, c'est-à-dire la sentimentalité, c'est avoir prendre pitié de soi, ou alors trouver les autres, trouver certains autres. Oh, le patron de mon copain, il est bien meilleur que le mien. Oui. C'est ça la sentimentalité. La vanité, ben, c'est ce manque d'estime de soi-même, où on a toujours envie de montrer qu'on peut faire plus et mieux, hein, alors qu'on n'a pas les outils pour. Vanité, alors bien-être, sentiment d'être en vérité avec soi-même et lucidité sur ses désirs, ça, ce sont des emblèmes qui montrent, hein, qu'on est dans le bien-être professionnel. Alors voilà, c'est tout. J'ai peut-être une dernière...
Et la sublimation...
Ah oui, alors, oui, on n'a pas parlé. Alors, la sublimation, c'est l'élément qui vient après la spiritualisation. C'est-à-dire que dans le processus de choix, de délibération intime jusqu'au choix, on a parlé donc de ce moment précis où soit on multiplie, ou on enchaîne, ou on déchaîne nos désirs, soit on va les valoriser. Donc, si on valorise, ça veut dire qu'on va avoir la clairvoyance, la lucidité, la spiritualiser, c'est-à-dire lui donner une dimension du sens, et la spiritualiser, pardon, c'est cette dimension de clairvoyance. Alors Paul Giel utilise le terme de sublimation pour dire justement que, eh bien, on va transférer l'énergie qui était à la base, finalement, de la réalisation de ses désirs accidentels, on va prendre cette énergie pour la mettre dans celle qui correspond à nos valeurs. Pour parler rapidement, mais c'est ça. OK ? Bon, ben, je crois que je peux finir par cette diapo-là. Donc, spiritualisation et sublimation, ce sont des mots qui permettent de décliner ces éléments-là. Donc, lucidité sur soi-même au niveau des désirs réalisables, pas d'autocomplaisance, hein. Ça, on reviendra à ça, on a des exemples précis à vous montrer. L'estime de soi mesurée, fierté au prorata de sa confiance mesurée en ses capacités. Traitement des alertes Non, si vous voulez, je ne sais pas, parce que je ne vais pas détailler, parce que là, c'est trop précis. Hein.
On va savoir.
Bon, voilà. Parfait. Je m'arrête un petit peu de manière très brutale, mais je suis désolé, parce que ça nécessite l'explication d'autres outils.
Peut-être que je peux rajouter juste un mot, c'est-à-dire la proposition. J'ai écrit un livre sur le burn-out. Et le problème du burn-out, c'est souvent que les dirigeants soient au courant de ça. C'est pas le problème de la base, mais c'est le problème des dirigeants. Hein. Burn-out, j'ai écrit un livre sur le burn-out à l'hôpital. Et donc cette question du management et de la spiritualisation, je l'ai formulée dans ce livre d'une manière un petit peu que je voudrais vous proposer sur le schéma, sur le même schéma que le désir, c'est-à-dire je demande au cadre de l'entreprise hôpital, de penser selon le schéma imagination, intellect, esprit. Ce schéma qu'on a développé tout à l'heure. C'est-à-dire que la question que je pose, l'entreprise hôpital, il y a quelque chose d'un petit peu bizarre là-dedans, parce que là on a des valeurs qui se heurtent, mais qui sont nécessaires aussi en même temps. Donc la première question, c'est la représentation. Quelqu'un m'a parlé de la question de la représentation tout à l'heure. C'est-à-dire, est-ce que les représentations, quelles sont les représentations des objectifs et des missions que je me demande et que je demande à autrui? Ça, c'est la dimension de l'imagination. Représentation. Deuxième question, c'est pour réaliser ces objectifs, la dimension intellect, c'est la dimension, est-ce que... Alors, soit j'ai donné, soit j'ai. J'ai, c'est celui qui se pose la question, qui travaille dans l'entreprise, c'est celui qui donne les... qui guide les choses se pose la question, c'est comme ça que je le formulais, est-ce que j'ai donné intellectuellement les moyens? Alors, souvent, dans la question des crises managériales, on est souvent dans les questions de moyens et on n'est pas dans les questions de sens. C'est-à-dire, on veut plus, toujours plus. Or, la question qu'il faut se poser, c'est dans la question que je pose, par rapport à cette même, en signant cette grille-là de lecture, quels sont les moyens? Est-ce que j'ai donné les moyens pour la réalisation de la représentation de l'objectif que j'ai donné? Et les moyens, ils se déclinent dans trois dimensions. Ils se déclinent dans un moyen, effectivement, matériel, mais je le mettrai en dernier parce que c'est souvent le premier qu'on met d'abord. Et je dirais le moyen sur le plan, de la formation des personnes. C'est-à-dire, est-ce que, pour l'objectif des choses, j'ai mis les moyens de formation? Et puis, le troisième point dans les moyens intellectuels, c'est les moyens, je dirais, de la hiérarchie. C'est-à-dire, est-ce que la hiérarchie est cohérente? Ça, c'est-à-dire, est-ce que entre ma représentation de mon objectif et puis j'ai mis une hiérarchie. C'est-à-dire que X fois, dans l'hôpital, moi, je connais bien l'hôpital de cet aspect-là, je veux dire, on se rend compte qu'il y a un management déficient, puisqu'on utilise ce terme-là, et souvent on dit, les pauvres infirmières ou les médecins, ils sont en burn-out. Et si on n'a pas de colonne vertébrale, c'est-à-dire de soutien, c'est la question du soutien. Est-ce que je donne pour la réalisation de la représentation de l'objectif que je vais les soutiens nécessaires? C'est l'intellect, ça. C'est la dimension intellectuelle. Vous voyez Et cette dimension du soutien, elle est horizontale et verticale. Elle est horizontale, c'est les formations, les machins, c'est tout ce qu'on peut donner aux gens pour qu'ils puissent fonctionner. Et elle est verticale. Et là, la verticalité, c'est le désir essentiel, si je peux dire. La verticalité, c'est la coordination de le soutien par toutes les personnes qui soutiennent cette dynamique-là. Et puis, le soutien, je dirais, dans toutes les dimensions du terme, c'est-à-dire ce que j'appelle la connaissance. Et la dernière question que je pose sur ce schéma-là, c'est la question du sens. C'est-à-dire, est-ce que les représentations et les objectifs que j'ai fixés ou que je me suis proposé ou que je propose aux autres sont en cohérence avec quelque chose de sensé? C'est-à-dire qu'on voit quelquefois, une fois qu'on a fait ce travail de représentation et de moyens, on se rend compte quelquefois que c'est pas en cohérence avec le sens. Alors, soit le sens des valeurs, soit le sens pour lesquels les gens sont engagés là-dedans. Donc là, il y a plein de hiatus comme ça. Donc sur ce schéma simple, c'est pas un schéma simple, c'est un schéma complexe. Mais le schéma est simple, la réflexion est complexe. De ces trois, sur le mode imagination, intellect, esprit, ce qui est l'analyse du désir, on peut décliner ça, pour le burn-out, je l'avais décliné comme ça. Et je pense, mais c'est une question qu'on a besoin de décortiquer. C'est ce que je voulais rajouter sur la problématique de l'hôpital. Et puis, après, pour terminer, j'ai rencontré en Belgique, justement, un clown relationnel qui est près de Liège, qui est pas très loin. Je l'ai rencontré ici, chez vous. Je le fais venir en France, quelquefois. Et c'est une approche très... fait un truc assez étonnant, ce type-là, qui est pas loin de chez vous, là, enfin, qui habite de Liège ou Bruxelles, je crois qu'il est à Liège, justement. Et une des conclusions, je l'ai fait venir justement pour cette question de dysfonctionnement, etc. Et puis il est très proche, on se rend compte que moi j'ai une pensée plutôt psychologique, et que lui, il est par son approche de clown relationnel, de clown thérapie, il était très proche et on s'est retrouvé là-dessus. Et une des conclusions de la question du management, c'était une des stagiaires qui disait au fond, pas de management sans ménagement. C'est joliment dit, c'est-à-dire en même temps, on retrouvait à la fin de ces stages cette question de la respect de la personne, c'est-à-dire de l'individu et de l'autre. Voilà ce que je voulais rajouter en complément de ce que
Merci. Voilà. Merci beaucoup Pierre et Christian. Je crois qu'on a encore un peu de temps pour des questions. Voilà, c'est à vous maintenant. Et me semble que il a été très bien exploité par tous ceux qui cherchent à augmenter l'efficacité de l'entreprise dans l'intérêt de l'entreprise. Et est-ce que vous pensez que vous allez gagner contre ça? Parce que la puissance de l'entreprise est telle que... Bon, alors, heureusement, il y a de temps en temps des burn-out et on vous appelle.
C'est trop
tard.
Mais
est-ce que vraiment on va se... Cette psychologie des motivations...
Ouais.
C'est le concept même utilisé par l'entreprise pour accroître l'efficacité de l'entreprise.
Exact.
C'est exactement les mêmes termes. Et alors, il y a une profession qui s'est montée là-dessus. Le coaching. Et ils sont grassement payés.
Sauf qu'ils n'ont pas forcément les mêmes valeurs que ce qu'on vient de développer ce soir.
Non, nous sommes bien d'accord.
Je suis d'accord.
Mais le point est de savoir qui va gagner.
J'aimerais bien intervenir parce que je suis coach d'entreprise d'efficacité.
Ah.
Et je pense que là, justement, quand vous posiez votre question, je me disais pourquoi opposer l'entreprise aux individus? Parce qu'il y a, heureusement, des entreprises qui savent que pour bien tourner, ils ont besoin de bien traiter les individus. En tout cas, moi, j'ai été formée dans une école de coaching où on n'a jamais parlé d'autre chose que de ça. Et on se base sur les psychologies humanistes et aussi du management, mais humaniste. Pas, donc, par contre, la rentabilité d'entreprise, donc les valeurs, donc ça, j'ai beaucoup aimé la partie valeur, en fait, c'est vraiment ça. Les valeurs d'entreprise peuvent être sur, par exemple, le gain, la rentabilité, etc., au détriment de l'humain. Dans certains cas, il y en a aussi. Mais je pense qu'il ne faut pas généraliser. Il y a des entrepreneurs qui, pour le bien de leur entreprise, ne voient pas la... Il n'y a pas de... C'est la même chose, si vous voulez, pour eux, le bien de l'entreprise, il faut que les gens soient bien pour que l'entreprise aille bien, et donc c'est dans la même direction. Et d'autres vont dire, pour que nous, on gagne un maximum, on aime autant écraser tout le monde sur le passage, c'est pas grave. Mais il ne faut pas mettre tout le monde en même panique, je pense.
Ah, ok,
voilà.
D'accord. Mais ceux qui sont dans le bon panier, je crains qu'ils soient la toute petite minorité, compte tenu de la dynamique du capitalisme.
Je crois qu'ils sont de plus en plus nombreux. Hein.
Oui, j'abonde dans votre sens aussi. Donc, effectivement, là, moi, je suis responsable HR dans une boîte de conseil et je fais du coaching. Et ce qu'on recherche avant tout, c'est que les gens soient bien et engagés. Engagés, c'est-à-dire qu'on essaie justement de faire le lien entre leur motivation, pourquoi ils sont là, et finalement, l'intérêt, effectivement, de l'entreprise. Les objectifs de l'entreprise. Et il y a un croisement là où il faut que les objectifs personnels croisent les objectifs de l'entreprise. Et ils doivent être bien là et tout le monde doit s'y retrouver. On cherche la relation gagnant-gagnant. Et voilà. Et je crois que c'est un facteur. Si les gens sont engagés et comprennent quelle est leur contribution par rapport à une stratégie, ben à ce moment-là, ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et on parvient à ce moment-là à canaliser une énergie qui est positive. Et c'est dans l'intérêt de tout le monde, pour la personne qui va rester plus longtemps, va se sentir mieux, etc. Et on se soucie d'elle d'abord au niveau humain, avant de se soucier de la productivité.
Parce qu'en étudiant le burn-out, dont on parlera demain, je crois que c'est prévu, on s'est rendu compte que c'est pas le travail qui fatigue. C'est pas le travail qui fatigue. C'est les conflits, les contradictions, etc. On a toute une liste comme ça qu'on parlera demain. Mais c'est pas le travail.
Le premier facteur de départ, c'est la relation conflictuelle avec l'autre.
C'est ça. Ou avec soi. Souvent, avec soi, c'est un autre aspect.
Mais c'est rendre service aussi de permettre à quelqu'un de réaliser que sa place n'est pas dans l'entreprise aussi. Moi, ça m'est arrivé, dans le cadre de coaching, de finalement aboutir à la conclusion je crois que la place n'est pas ici. Et pas dans le but de virer la personne, mais simplement dans le but d'essayer de faire de sorte que cette personne s'épanouisse. On est dans l'accomplissement de soi et de la recherche de l'accomplissement de soi.
Le problème, c'est que le capitalisme fonctionne non pas pour la satisfaction du client, mais pour le profit des dirigeants. La rentabilité de l'entreprise, c'est pas uniquement le profit des dirigeants, c'est trop simpliste. La rentabilité de l'entreprise passe généralement avant
la satisfaction du client. Et on recherche la satisfaction du client avec la publicité, toutes sortes de trucs. Mais la satisfaction réelle du client, on regarde dans les yeux celle-là. Elle existe, bien entendu. Bien entendu. Il ne faut pas noircir le tableau inutilement, bien entendu. Simplement, ce que je me demande, c'est le conflit entre ces forces.
Il faut faire l'éloge du conflit.
Qui va gagner ?
Non. C'est-à-dire que... Enfin, je n'en sais rien. Je ne sais pas qui va gagner. Je veux dire, on vit, voilà. On est dans la vie, on avance. Et je crois que un des éléments, c'est de ne pas... Je veux dire, tirer un petit peu de ce que je disais, de ce qu'on disait en début, c'est de dire si on peut, quand je dis l'éloge du conflit, c'est un petit peu, si, ça veut dire que le conflit peut être générateur de quelque chose, à condition qu'on ne soit pas un conflit que vous évoquez là, qui est un conflit armé, de mort. Ce conflit de mort, il existe aussi, c'est vrai. Il ne faudrait pas être bisounours, hein, ça va. Il existe aussi ce conflit. Et c'est probablement ce risque de mort. Parce qu'on n'a pas parlé d'un thème important qui est la question de la mort et de la vie et du sens de quelque chose. Et c'est probablement cette problématique, c'est une des idées fortes aussi de la pensée d'Yel, c'est que c'est la question de la mort qui fait, je ne suis pas le seul, tous les philosophes l'ont posé, mais ils le posent aussi dans cette dimension-là, c'est la question de la mort et de la finitude qui aussi renvoie à cette recherche et ce désir essentiel. Donc c'est vrai, vous avez raison de dire les choses comme ça. Et je crois que l'enjeu est important. Sauf que, comme on n'est pas forcément lucide, on n'est pas forcément, on n'a pas mené au niveau des représentations de l'enjeu dans lequel on se trouve. Quelquefois, on est une petite chose, mais on ne se rend pas compte. Et souvent, on s'en rend compte au moment où soit je craque, soit l'entreprise craque, soit des choses vont craquer. Et je pense que c'est parce qu'on ne voit pas ce qui se passe. Et donc, cette invite, c'est quand même soit en anticipation, vous parlez de coaching, je veux dire, c'est une espèce d'anticipation un petit peu de tout ça, ou soit, je veux dire, des managers lucides, des gens lucides et des hommes lucides qui posent cette question des deux problématiques qui est formulée dans une époque scénariste, qui est la banalisation du monde. C'est ce qu'il appelle la banalisation, non pas dans le sens commun du terme banalisation, mais c'est de dire, tu l'as bien développé Christian au début, la multiplicité effrénée de tous les désirs, l'autre pensée philosophico-sociale qu'on a actuellement, c'est la dimension écologique. La dimension écologique, enfin les pensées écologiques, elles vont dans l'autre sens, justement de la prise en compte du monde dans lequel on vit, pas sur le même plan que nous. Pas sur le plan qu'on vient de développer maintenant, mais c'est quelque chose d'analogue, c'est-à-dire de cette évolution en équilibre. Deux. Je veux dire, donc, je ne sais pas si on va gagner ou perdre, mais en tout cas, je pense que d'être conscient de ça, ça nous rend moins moutons, et donc peut-être un peu plus heureux.
Je voudrais juste rajouter une petite chose par rapport à... Oui, pardon.
Allez-y.
Non, je voulais juste rebondir en disant, je ne crois pas qu'il doit y avoir un gagnant un perdant, je crois qu'il doit y avoir des gens qui se trouvent et des entreprises qui se trouvent dans leur identité aussi, des gens qui se trouvent dans leur identité. Et de là, voilà,
chacun... Moi, je partage votre...
Le mot le plus important aujourd'hui, l'harmonie, c'est pour moi, la lecture de tout ce qui est...
Dans un sens non ésotérique.
Voilà, c'est ça.
Hein? Dans un sens non ésotérique. Voilà.
Il y a une question.
Oui, pardon.
Je voulais poser une question. En fait, la définition de la notion de valeur m'interpellait un peu là, parce que quand on parle de valeur de vécu, ce qui nous fait plaisir, et vous citiez l'exemple de prendre le santé à 5 heures, j'ai un peu de mal à situer ça dans la manière dont moi, je conçois, je sais bien que c'est un concept, évidemment, je conçois la notion de valeur. Je place ça à un autre niveau.
Non.
Si vous voulez vivre en congruence avec des valeurs, ce sont quand même des valeurs éthiques,
oui,
des valeurs
sûr,
morales.
Bien entendu.
Je ne veux pas me mettre en concurrence avec mon besoin ou mon désir.
Vous avez tout à fait raison de relever ce sujet-là. Mais
Alors, tout à fait. C'est-à-dire que dans une approche thérapeutique, vous voyez, une personne qui vient vous voir en disant « ma vie n'a pas de sens, il n'y a plus rien qui m'attire ». Redéfinir les valeurs de vécu, c'est-à-dire on est dans un petit peu dans la phénoménologie, vous voyez, c'est-à-dire dans le quotidien, dans l'existence même, dans le vécu de la personne. Et parler avec la personne, vous voyez, en face à face, de ce qui se passe dans sa réalité quotidienne, dans son vécu quotidien. Je vais donner un exemple. J'ai eu en thérapie pendant 5 ans un tétraplégique, une personne en situation de tétraplégie. Eh bien, pendant 2 ans et demi, elle a parlé de sa plainte en permanence. Et puis au bout d'un moment, on a travaillé sur son quotidien, ce qui se passait dans son quotidien. C'est le matin, 1h30 chez le kiné, l'après-midi, autre chose, vous voyez, et ce qui se passait réellement. Eh bien, si vous voulez, il y a une redynamique. Alors, je parle rapidement, mais néanmoins, par rapport à ses valeurs de vécu, la personne a commencé à trouver des moments de sa vie qui lui faisaient plaisir, qui ranimaient, alors là, je parle d'Hélien, qui ranimaient l'élan vital. Vous voyez, et ça me fait penser à ce qui vient d'être dit. C'est que la banalisation, c'est-à-dire cette recherche effrénée de la rentabilité, c'est effectivement une forme de banalisation, mais il ne faut pas oublier qu'elle a pour conséquence un affaiblissement de l'élan vital. Vous voyez ? Non seulement au niveau sociétal, mais au niveau individuel. Vous voyez ? Et c'est ça, c'est ce que dit Diel, hein ? Il le dit, mais c'est ça le problème, en fait. On est dans une situation d'affaiblissement d'élan vital. Les gens vont...
Les notions d'immanence des valeurs, de l'immanence des valeurs. Diel propose cette vision des valeurs qui ne serait pas transcendante, un Dieu qui serait dépositaire de valeurs pour l'espèce humaine, mais de valeurs immanentes, c'est-à-dire qu'au fond, c'est notre recherche de satisfaction qui crée les valeurs. Voilà, donc on est dans l'immanence des valeurs, de valeurs qui nous correspondent à nous, alors individus, mais qui doivent bien être le bien commun de tous les individus. Et je pense que la clé, elle est dans cette notion d'immanence des valeurs, qui vient de la valorisation de nos désirs, de valorisation en termes de satisfaction, d'harmonisation, d'abord de réalisabilité. Et ça, c'est la fonction de l'intellect. Ce désir est-il réalisable dans tel contexte? Et puis ensuite, d'harmonisation de toute la gamme de nos désirs à harmoniser dans les pulsions matérielles, sexuelles. Et puis, donc, c'est cette valorisation de nos désirs qui crée, en quelque sorte, les valeurs. On n'est pas du tout dans des valeurs transcendantes qui sont souvent idéologiques. Qu'elle soit spiritualisante ou matérialiste.
Je regarde Pierre, je connais que son prénom.
J'avais des questions.
Qui m'a raconté une histoire entre 1h et 7h du matin. À quelle heure on regarde son compte en banque, c'est ça?
Oui, ça, c'était une présentation de...
Ça me faisait penser quand tu parlais. Allez-y, oui, racontez-nous.
Il y a du marketing qui vantait son application mobile de sa banque et qui montrait les statistiques d'usage et montrait qu'entre 1h et 5h du matin, il y avait 7% des clients qui regardaient le montant de leur compte en banque.
Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau de ces gens? Alors, c'est valeur, est-ce que c'est l'angoisse? Est-ce que c'est réalisable? Et en même temps, je me dis, moi, ça me faisait penser au fait que quand on est dans l'angoisse, entre 1h et 7h du matin, on a besoin de se réenraciner dans la réalisabilité ou l'intellect, et que c'était, enfin, moi, je l'interprétais un petit peu comme ça, en disant, il faut que je regarde un petit peu. Ce qui est une question aussi, c'est une des questions un petit peu, est-ce que c'est, quand tu disais réalisable, effectivement, est-ce que c'est réalisable méthodiquement ou machin avec papier, crayon et l'autre? Mais...
Moi, j'aurais des questions. Une première, c'est, on va parler de burn-out. Est-ce que l'élan vital, c'est le burn-in? Et puis...
On verra demain.
La deuxième, c'est, en termes d'imagination et de représentation, le monde, selon Gilles, c'est quoi? La vocation, tout ça, ça, c'est au service de quoi? Parce qu'on a parlé intellectuellement de ce qu'il y a à l'intérieur de la psychologie de la motivation et la représentation de la finalité.
Je ne sais pas comment. Oui, vas-y.
Je crois que Diem, il est parti de lui. Il était en France au moment de la Seconde Guerre mondiale, il a été dans un camp à Gurs. Il était au bord du suicide. Il s'est dit, soit je me tire une balle dans la tête, soit j'apprends à vivre. Alors comment est-ce que je fonctionne? Il faut peut-être que j'arrête de me plaindre, ce qui est une catégorie de la post-motivation. Donc je crois que la finalité, c'est vivre et trouver sa satisfaction. Et voilà, rester les deux pieds sur terre et si possible... Et donc, il est parti de là et il a observé qu'il était un être de désir, et que ce désir, parfois il arrivait à le réaliser, parfois pas, et parfois il y avait des désirs qui n'étaient pas en harmonie les uns avec les autres. Et il est vraiment parti de lui et de sa souffrance. Et on n'a pas parlé de souffrance, mais c'est au cœur aussi de sa pensée.
Si on veut compléter, enfin, je vais vous dire un petit peu ce que... Sur cette piste-là, il y a une idée, c'est penser sa vie et vivre sa pensée. C'est une de... Et quand vous disiez la vision selon enfin, ce qui est proposé, c'est que les pulsions élargies, puisqu'on parlait de pulsions élargies, il posait comme ça la pulsion élargie, qui sont presque des valeurs de vie, qui posait, donc, ça n'a rien de révolutionnaire, mais c'était que la pulsion matérielle, elle s'élargit pour lui dans la relation aux autres sous forme de la bonté. C'était une des valeurs comme ça, qui posait comme ça. La pulsion sexuelle, elle s'élargissait dans quelque chose qui est évident, mais qui est la pulsion de l'amour, qui était une valeur forte, forte. Et puis la pulsion spirituelle, elle s'élargissait dans une valeur qui est la vérité. Et donc il pose un petit peu ces éléments-là comme étant un peu des avec cette hypothèse que cette dimension de bonté, c'est-à-dire c'est toute la justice par rapport à l'autre, hein, dans un monde injuste et capitaliste, comme vous disiez, mais cette question de l'amour qui est le fondement un petit peu de nos racines fondamentales, et puis cette question de la vérité, qui est au fond, on a parlé de la lucidité, on a parlé de... C'est des formulations qui développent en disant le désir essentiel peut s'incarner dans cette formulation et dans l'art. C'est-à-dire l'art dans le sens, non pas l'art... l'art dans le sens de l'émotion que l'art peut, notre musicien, artiste nous a si bien formulé, c'est-à-dire l'émotion face justement à cette question du mystère, que ça soit la musique, que ça soit la nature, etc. Et là, on n'est plus dans l'intellectuel, on est dans l'émotionnel, qui peut être aussi bien dans la résolution d'un problème de maths, on peut avoir un émotionnel, qui peut avoir un émotionnel aussi bien de création artistique, ou de l'émotionnel de ce qu'il appelait le plus grand art de la vie, qui est l'art de vivre. Il mettait l'art de vivre un petit peu peut-être au summum des arts de la vie. Donc je ne sais pas si ça répond à votre question, mais c'est un petit peu les pistes qui sont dans sa philosophie éthique de vie, quoi, si je peux dire.
Aussi, on pourrait dire, arriver à l'estime de soi.
Ouais.
Comment arrive-t-on à l'estime de soi? On en parlera demain, on fera un atelier sur l'estime de soi. C'est sûrement aussi la finalité de toute sa recherche.
Bon.
Est-ce que...
Oui, c'est le même mouvement. C'est autant, si vous voulez, c'est pour ça que la vie est très... Enfin, notre vie psychique est complexe. On a besoin de multiples approches, de multiples formulations, de multiples... C'est la complexité. Pour pouvoir... moi, c'est une hypothèse qui me séduit beaucoup dans l'approche et de la vie et de l'être humain en général, c'est-à-dire qu'on a besoin de multiples approches pour arriver à ce qu'on a dit harmonisation, on a dit sensation du mystère, on a dit bien-être. Le bien-être, c'est aussi une manière bien-être dans sa peau, bien-être dans la relation aux autres, dans ces cercles qu'on décrivait tout à l'heure. Et je pense que on a tort probablement de séparer actuellement de façon d'opposer trop enfin, je pense que, entre la vie de plaisir et vie de travail. Je pense qu'on a tort de l'opposer de façon aussi stupide, aussi bien pour les enfants que pour les adultes. Ça commence chez le petit enfant, mais bon, ça c'est un problème.
Vous avez encore des questions? Sinon, on va laisser la parole terminer à tout.
Bon, vous avez répondu à ma question de tout à l'heure. Vous êtes optimiste.
Oui.
Et à la fois que l'harmonie l'emportera sur les clapons.
Je ne sais pas, je ne sais rien.
De chacun et de tout le monde. Alors, est-ce que. Vous pensez, parmi les valeurs que vous avez expérimentées, parce que c'est le point que je retiens, donc pour croire personne, expérimentées.
Ouais.
Est-ce que vous avez expérimenté, tous ceux qui font du coaching, est-ce que vous avez expérimenté que le travail bien fait comporte en lui-même sa juste rémunération?
Non. Le travail bien fait n'a pas sa juste rémunération. Je suis médecin. Je suis psychiatre. Je suis médecin. Le prix de ma consultation, c'est toujours le même, en gros. Donc, je fais une consultation. Et l'injustice est dans tous les coins. C'est-à-dire que je peux très bien me casser la tête, trouver des solutions, être bon. Ouais, je suis bon, etc. Je touche la même chose. Et avoir un retour, donc une reconnaissance de l'autre, nul. De toutes les manières, vous faites votre boulot, vous êtes payé pour ça, alors... Et l'injustice, elle peut encore être aussi dans l'autre sens, c'est-à-dire que ça m'est arrivé X fois de n'avoir rien fait du tout, d'avoir même mal fait, oui, je peux même mal faire, et puis d'avoir une reconnaissance absolument fantastique, et le tarif est le même. Donc, l'injustice... Alors, ben bien sûr, en revanche, je veux dire, c'est vrai que si j'ai dans ma relation, j'applique ça à mon métier, hein, mais je pense qu'on peut l'appliquer à d'autres, dans ma relation à l'autre, si j'ai bien fait les choses et que je suis bien, alors là, j'ai double paye. Parce que probablement, je saurais mieux m'occuper de l'autre et j'aurais j'aurais une satisfaction et puis j'aurais la satisfaction de cette relation à l'autre. Et là, c'est une paye qui dépasse l'argent. Mais je ne suis pas sûr que ça soit donné pour tous les métiers. Est-ce qu'on peut l'extrapoler pour toutes les choses? Un petit peu, probablement. On peut le faire, mais je dis ça pour vous livrer à proposition. Pardon.
Je pense que c'est la notion de plaisir, avoir plaisir à faire un travail, éventuellement bien fait. Pour celui dont le plaisir, c'est d'avoir bien fait son travail, alors oui. Mais pour un autre, son plaisir, ça sera peut-être pas d'avoir bien fait son travail, mais autre chose, d'avoir eu un sourire à son client. Mais je pense que c'est plutôt d'avoir le plaisir
en travail. On peut décrypter un petit peu les choses, parce que l'invite, c'est justement de décrypter un petit peu tout ça. Voilà.
Là-dessus, je ne vais pas m'empêcher de mentionner Paul Richard Sennett. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, mais qui a écrit plusieurs livres sur, par exemple, être artisan et favoriser l'artisanat dans le travail de chacun. Et, ça, et il prend des exemples pour dire que ça peut vraiment toucher tout le monde, ceux qui ramassent les poubelles.
Absolument.
Et qui commencent à faire des chorégraphies pour ramasser les poubelles.
Absolument.
Et qui donnent donc à leur travail, qui n'est pas vraiment des plus faciles, une dimension esthétique, artistique.
Esthétique.
Et alors, et c'est là que le management peut être totalement à côté de ses pompes. C'est quand, dans la volonté d'optimiser le temps passé de ces personnes à ramasser les poubelles, il tue toute possibilité de s'écarter un peu
de créativité.
D'un process.
C'est la créativité possible partout. Oui, c'est une jolie exemple.
Dans la banque, on a essayé de faire en sorte que les applications de crédit, qui ne sont pas vraiment des modèles de littérature, mais soient des œuvres artisanales pratiquement. En tout cas, je voulais donner permettre à mes collaborateurs d'avoir ce sentiment que c'était quelque chose de beau, potentiellement beau.
Ouais.
Ça peut se vivre dans tous les jobs.
On peut le penser dans tous les jobs. Absolument. On peut le décliner non pas dans l'en-soi de la matière, mais dans la manière de le faire.
Ouais.
C'est une des...